pays occidentaux, l'allongement de la durée de la vie est considérable. Désormais, un Français sur cinq et un Belge sur quatre a plus de 60 ans. La très vaste majorité de ces personnes vit à la maison, seule ou en famille, tant que leur santé, en tout cas, leur permet. Mais qu'elles entrent ou non en maison de retraite, les personnes âgées deviennent de plus en plus dépendantes pour leur vie quotidienne. Famille, proches, amis ou professionnels de la santé, l'entourage en vient donc à jouer un rôle considérable dans le bien-être de ce qu'on appelle maintenant le quatrième âge. Mais il ne s'agit pas seulement d'éliminer toute forme de maltraitance. Famille et maison de retraite doivent aussi veiller à la bien-traitance des personnes âgées. Pierre-Antoine Collat, cadre chez Pro Bono, un gestionnaire de maison de retraite médicalisée en France, nous explique ce qu'est la bien-traitance des personnes âgées.
C'est le sentiment qu'elle a de rester encore libre, et donc la possibilité pour elle de faire des choix. Et d'autre part, le fait de lui laisser faire le maximum de choses. Donc ça passe par une personnalisation du projet très poussée, qui suppose derrière tout un travail mené par tous les professionnels de la maison de retraite autour de la personne, pour essayer de la considérer de manière globale et non pas la saucissonner entre toutes les différentes spécialités des professionnels qui sont présents à la maison de retraite.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire être capable d'adapter l'accompagnement, ne faire que ce que la personne ne peut pas faire elle-même et lui laisser faire tout ce qu'elle peut faire. Par exemple, dans la toilette, si la personne peut se laver seule le devant du corps, à ce moment-là, c'est lui laisser laver seul ce l'avant du corps, alors que ce serait facile pour le soignant de faire toute la toilette lui-même. Donc ça, c'est des choses qui contribuent à la bien-traitance et au bonheur de la personne âgée. L'autre chose qui est importante pour se sentir homme, c'est le sentiment d'être libre et de pouvoir faire des choix. Donc on valorise cette capacité à faire des choix en leur laissant le choix sur leur menu, en leur laissant le choix entre les activités, en leur permettant d'essayer de vivre, non pas en établissement avec les règles et les contraintes de l'établissement, mais être au maximum comme à domicile.
C'est-à-dire que vous vous préoccupez aussi du bien-être psychologique, spirituel des personnes, elles ont des options de ce côté-là ?
Pour la considérer de manière globale, il faut s'attacher à répondre à tous ses besoins. Et donc on dispose en fait pour ça d'une grille de lecture. C'est une infirmière canadienne qui s'appelle Virginia Anderson qui a théorisé un peu les 14 besoins de tout être humain. Et donc ça va de besoins qui sont fondamentaux, comme boire, manger, dormir, se laver, à des besoins qui sont beaucoup plus évolués, comme se réaliser, s'instruire. Et on utilise cette grille de lecture-là pour n'oublier aucun des besoins de la personne âgée chez nous, y compris dans une dimension psychologique, spirituelle.
Comment est-ce que vous faites pour traiter les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'autres qui présentent des difficultés de comportement et avec lesquelles il faut redoubler d'attention ?
Donc pour ça, on dispose en fait d'îlots qui sont spécialisés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un îlot ? C'est une douzaine de chambres qui sont réparties autour d'un espace de vie. Pour les îlots qui sont spécialisés Alzheimer, on essaye en général de les placer au rez-de-chaussée et d'avoir des espaces de vie qui sont beaucoup plus grands que les autres îlots classiques qu'on utilise et ouverts sur l'extérieur pour pouvoir laisser ces personnes déambuler. En effet, la réponse simple au problème de la démence et de la déambulation, c'est la contention, qu'elle soit physique ou médicamenteuse. On se refuse à le faire parce que il n'y a pas pire pour une personne et ça entraîne justement tous ces problèmes de maltraitance. Ça entraîne aussi de la part de la personne âgée des réactions violentes, des cris. L'idée, c'est donc de créer ces îlots dans lesquels on va laisser au maximum ces personnes déambuler à l'intérieur, à l'extérieur quand il fait beau. Et puis avec du personnel qui est formé à ce type de pathologie, il sera d'autant plus sensibilisé à toutes les réponses qu'on peut y apporter.
Qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour les malades d'Alzheimer ?
Il y a un certain nombre de choses qui sont faites aussi spécialement pour eux. Donc souvent, la restauration peut être donnée au sein même de l'îlot protégé. On y implante une petite cuisine d'appoint, ce qui permet aussi d'aider les gens à retrouver inconsciemment des repères de leur vie antérieure et donc de les faire participer à la cuisine, à tout un tas d'actes de la vie quotidienne qui sont très profondément ancrés dans leur mémoire d'homme. Et donc même si, sur le coup, ils ne reconnaissent plus leurs enfants, ils bougent tout le temps, ils oublient, en fait, il y a des choses qui restent pour eux fondamentales et on essaye de les faire revivre.
Vous parlez des enfants, justement, comment est-ce que vous travaillez avec les familles pour le bien-être des personnes âgées qui vous sont confiées?
Alors, les familles doivent être intégrées au maximum à la vie de l'établissement. Il n'y a pas pire qu'une famille qui abandonne son parent comme ça en établissement sans jamais venir le voir. Quand une personne âgée rentre en établissement, il y a toute une phase d'observation de cette personne pour mieux la connaître. Et au bout de 3 semaines, tous les professionnels se réunissent et puis décident de quel projet personnalisé on va mettre en œuvre pour cette personne-là et pour valoriser son autonomie. Et ce projet personnalisé, il donne lieu à un avenant qui est signé par la personne elle-même et par la famille. Donc, par ça, on souhaite impliquer au maximum la famille. Alors, c'est pas forcément évident parce que souvent, les enfants se disent « Attendez, je mets ma mère en maison de retraite, c'est pour que vous vous occupiez d'elle. » Et alors qu'en réalité, la perspective pour nous est autre. Il faut, à la limite, qu'on en fasse le moins possible pour que la personne puisse garder le plus d'autonomie possible. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement avec ces familles. Les familles sont invitées à participer au maximum d'activités. On fait des choses en commun. Et puis, à la toute fin du séjour et de la vie de la personne, il y a tout un effort qui est fait aussi au niveau de l'accompagnement des familles, l'accompagnement psychologique pour aider les familles à faire ce travail de deuil.
Qu'est-ce que vous pensez du débat médiatique sur la maltraitance ?
Par rapport à tout ce débat qu'on voit en ce moment sur la maltraitance, on a critiqué un certain temps Valérie Létard, donc la secrétaire d'État aux personnes âgées, pour ne pas s'attaquer au problème de la maltraitance. Donc elle a été obligée, en réaction à ça, de sortir un plan contre la maltraitance. Il y a régulièrement en fait des émissions de télé qui parlent de la maltraitance et qui ne parlent évidemment que des établissements qui vont mal, parce que bon, c'est le principe d'une émission de télé, il faut essayer de la vendre et de faire que le maximum de gens regardent. Et les gens regardent des choses sales, qui les dégoûtent, ça intéresse plus que des choses qui vont bien. Et finalement, ce débat sur la maltraitance, il est quand même très biaisé par les médias qui parlent beaucoup des cas de maltraitance. Mais dans la plupart des maisons de retraite aujourd'hui en France, les gens se portent bien tout le personnel est bien traitant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des maltraitances, elles ont lieu à domicile et pas en établissement. Et il est finalement encore plus là qu'en établissement, l'enjeu. Il faut ne pas considérer seulement les maisons de retraite, mais les personnes âgées dans leur ensemble pour appréhender correctement les problématiques de maltraitance et de bien-traitance.